12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, votre journal. Juste après, on s'intéresse à la consigne aujourd'hui. Vous savez peut-être que la secrétaire d'État à la transition écologique a promis un véritable Big Bang dans nos poubelles. Gros plan justement sur ceux qui s'y sont déjà préparés. C'est la France qui bouge avec vous. On vous attend notamment au 39-21 et sur Twitter.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
La canicule perturbe tout, en commençant par les examens de fin d'année.
Oui, le brevet des collèges reporté, les écoles et les crèches fermées au cas par cas, avec des conséquences aussi pour les départs en vacances. Bref, c'est une joyeuse pagaille qui s'installe alors que le mercure continue de monter. 53 départements, vigilance canicule, chaleur à laquelle il va falloir ajouter la pollution. Point complet dès le début de ce journal. Révélation Europe 1, 5 policiers de la BAC mis en examen ces derniers jours, notamment pour corruption. On connaît leur mode opératoire. Dans ce journal également, la Russie rejoint le Conseil de l'Europe, ce qui ne plaît pas à tout le monde. L'équipe de France féminine en résidence à Clairefontaine, Bicos canicule, et le foot people, avec la séparation d'Adil Rami avec Pamela Anderson, qui, comme on dit, envoie du bois sur les réseaux sociaux. La météo, Elena Morna, on monte encore d'un cran.
On envoie du bois, nous aussi. La chaleur s'intensifie jusqu'à 38 degrés cet après-midi à Gap ou encore à Avignon. La nuit prochaine sera épouvantable. Les températures baisseront peu. Des nuits courtes, donc peu de refroidissement pour demain et une nouvelle salve de chaleur attendue pour mercredi et jeudi. Tout ça sous le soleil, sauf sur le nord-ouest.
Merci Elena. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Les températures grimpent encore et comme prévu, eh bien ça va continuer.
Ouais, et la rédaction d'Europe 1 a fait le choix d'une ville particulièrement exposée à cette poussée de chaleur. Le choix s'est porté sur Clermont-Ferrand. Jean-Gabriel Bourgeois, c'est vous qui avez hérité de cette lourde tâche de nous relater la vie dans le Puy-de-Dôme. 41 degrés annoncés demain, mais il fait déjà très chaud aujourd'hui.
Oui, et ça y est, Pierre, on vient d'atteindre 30 degrés sur la place de Jaude, en plein centre de Clermont-Ferrand, où je me trouve. La température va encore grimper au-delà des 35 degrés cet après-midi. Autant dire que la fontaine qui vaporise de la brume d'eau sur la place est prise d'assaut. J'ai testé, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. C'est même un jeu pour certains, comme Kevin, qui roule dans le brumisateur avec son vélo.
On passe pour se faire arroser, et voilà. Il fait trop chaud, du coup, bah, on se rafraîchit.
La fraîcheur, c'est ce que tout le monde cherche ici. Il y a peu de coins d'ombre, sauf sous les parasols des terrasses. Delphine est la responsable d'un restaurant. Elle redoute un manque de clients à cause de la canicule, mais elle a pensé à tout.
On a rafraîchi un petit peu la terrasse déjà ce matin. On a tout de suite descendu les bâches de façon à ce que le soleil ne cogne pas directement sur la pierre. On espace un petit peu plus les tables de terrasse de façon à ce que les gens aient un petit peu plus d'air, qu'ils se tiennent un petit peu moins chaud. C'est sûr qu'on fait des plats beaucoup plus légers, hein, c'est-à-dire plus des salades. Aujourd'hui, par exemple, on fait un tataki de bœuf, une petite salade fraîcheur, du melon, de la pastèque, tout ce qui contient un petit peu d'eau.
Delphine a même sorti un pistolet à eau en forme de dauphin pour arroser sa clientèle. Une façon comme une autre de se rafraîchir pour ceux qui déjeunent à l'extérieur, alors que d'autres préfèrent la salle intérieure du restaurant, une salle climatisée.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois. Le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer au pistolet à eau, nous, dans le studio d'Europe 1.
Non, on n'en a pas. On n'en a pas, mais on va peut-être,
peut-être
aller en acheter. 53 départements, et oui, en vigilance canicule. On vous le répète, hein, il faut vraiment, Pierre, surveiller les personnes fragiles, à savoir les seniors et aussi les enfants.
Et ce matin, Gérard Collomb est allé visiter une crèche dans sa ville. Jean-Luc Boujon, vous êtes en direct de la crèche Renoir dans le 3e arrondissement, et le maire de Lyon est venu voir si tout se passait bien.
Oui, effectivement, Pierre, hein, une visite pour vérifier que tous les petits Lyonnais sont bien protégés de la canicule dans leur crèche municipale.
Nous, il n'y a pas de problème, tout est mis en place.
Bon, en plus, on nous dit que ça va durer 4 jours, hein, donc après ça retombe, hein. La ville de Lyon est préparée.
Voilà, donc la ville est prête à faire face avec des personnels très sensibilisés au danger de la chaleur. Là, c'est une séance pulvérisation d'eau pour les enfants, comme il y en a plusieurs fois par heure.
On mouille ? Hop ! Ah, les jambes de Martin, les bras et les visages.
Des enfants qui ont bien compris ce qui se passait, comme Samuel, pas encore 3 ans.
Et c'est chaud.
Et qu'est-ce que vous demandez souvent ?
Boire de l'eau.
Tu veux boire de l'eau souvent en ce moment ?
Oui.
Des enfants qui sont en body ou même en couche dans des pièces où la température est de 28 degrés. Pourtant, il y a des climatiseurs mobiles, explique la directrice Isabelle Perret.
Deux climatiseurs et on nous a mis des films anti-UV, anti-solaire sur des zones plus sensibles pour protéger au maximum.
Deux, vous trouvez ça suffisant ? Vous aimeriez un ou deux de plus ?
Ce serait bien.
Vous l'avez dit à Gérard Collomb ?
Oui.
Il a dit quoi ? Il n'a rien dans son coffre ?
Lui, je ne sais pas. Les services de la ville et la petite enfance font le nécessaire pour en acquérir des supplémentaires chaque année.
Voilà, donc un appareil en plus n'est pas exclu ici, sachant que la ville de Lyon vient également distribuer, mais dans ses écoles cette fois, près de 3000 brumisateurs et 500 ventilateurs pour faire face à cette vague de chaleur.
Merci Jean-Luc Boujon à Lyon pour Europe 1. Hein. Elena Morna, est-ce qu'on peut précisément se projeter dans les jours qui viennent ? J'entends tout et n'importe quoi, et notamment le fait qu'on va finalement pas atteindre les 48 degrés.
Bon, alors 48 degrés, c'est une température ressentie qu'on devrait atteindre. Alors c'est vrai qu'avec cette histoire d'humidex et de température ressentie, ça peut prêter à confusion. Le taux d'humidex, il mesure la chaleur, souvent sèche, mais qui, lorsqu'on a un taux d'humidité présent dans l'atmosphère, modifie le ressenti. Par exemple, il va faire 32 degrés cet après-midi à Lille, 38 à Avignon. Température toujours prévue à l'ombre. Eh bien, le ressenti à Avignon, qui a un taux d'humidex bas, pourra atteindre 41, 42 au soleil, évidemment. Maintenant, si on compare avec les 32 attendus à Lille, qui a un taux d'humidex plus élevé, on aura sans doute un ressenti qui se rapprochera de celui d'Avignon, sauf que ce sera plus inconfortable. Pourquoi ? Parce que la présence d'humidité dans l'atmosphère empêche la sudation, la transpiration, de faire son travail, c'est-à-dire de refroidir l'organisme par évaporation. Voilà pourquoi le ressenti est plus pénible au soleil. Quant aux températures, oui, elles vont monter avec parfois une impression tropicale, moiteur, lourdeur. Le pic de chaleur sera pour jeudi partout en France. Ça monte encore vendredi, mais essentiellement dans le sud, avec des températures extrêmes qui pourraient approcher ou dépasser le fameux record d'août 2003. Nous étions en août, hein, cœur de l'été, pas en juin, à savoir 44,1 degrés dans le Var. À l'époque, la mesure des températures à 2 km d'altitude était de 20 degrés. Aujourd'hui, il est de 25 degrés.
Ça veut dire que les 48 degrés, on va les atteindre, mais en ressenti. Merci,
voilà.
Je comprends mieux. Merci Elena Morna.
Il est 12h36 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
En tout cas, Pierre, il y a des conséquences importantes avec cette canicule avérée, notamment dans le monde scolaire. Hier, on apprenait que le brevet des collèges était reporté. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
C'est inédit, hein, ça n'est jamais arrivé.
Non.
700 000 élèves vont donc soit devoir patienter jusqu'à lundi, soit s'ils ne peuvent pas demander une dérogation. D'habitude, les dérogations, c'est pour les cas de force majeure. Mais là, le ministère sera beaucoup plus souple.
Oui, les conditions de dérogation sont largement assouplies. Par exemple, si vous avez un billet de train non échangeable, un billet d'avion, réserver un séjour linguistique ou une colonie de vacances pour votre enfant, donc si vous avez un justificatif, il aura le droit de passer le brevet lors de la session de rattrapage en septembre, les 16 et 17. C'est ce que nous dit ce matin le ministère, en attendant la circulaire qui doit être publiée d'ici quelques heures et qui va cadrer précisément ces conditions de dérogation. Alors concrètement, il va falloir apporter votre réservation de vacances au principal du collège. J'ai eu au téléphone le syndicat des chefs d'établissement qui me dit que vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Le principal devrait vous remettre une attestation pour que votre fille ou votre fils se présente en septembre. Les chefs d'établissement anticipent déjà une session de septembre beaucoup plus importante que d'habitude. Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser des salles dans beaucoup de collèges au lieu de seulement 2 ou 3 par département d'habitude.
Et puis il y a un autre phénomène, hein, Virginie, c'est la fermeture des écoles. C'est au cas par cas. Mais ça concerne aussi beaucoup de monde.
Oui, alors les décisions sont en train d'être prises. Les parents devraient être avertis d'ici demain midi maximum. Les directeurs d'école, dans lesquels il fait particulièrement chaud, soit à cause d'une grande baie vitrée ou alors d'une isolation thermique inefficace, doivent alerter les directeurs académiques. À la fin, c'est le préfet qui prend la décision de fermeture. Ça peut être seulement l'après-midi de jeudi ou de vendredi, ou la journée entière. Par exemple, dans des écoles qui sont en travaux avec des bâtiments préfabriqués où il fait très chaud. Alors, beaucoup d'enseignants appellent exceptionnellement les parents à garder leurs enfants chez eux jeudi et vendredi s'ils le peuvent. Ça fera des classes moins chargées, donc moins chaudes. Et l'atmosphère des écoles sera un peu plus sereine.
Et une autre conséquence pour les parents. Merci Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1.
Et puis Pierre, avec la chaleur, évidemment, c'était prévisible, voilà la pollution.
Généralement, ça va de pair, oui, et la conséquence, c'est généralement la circulation différenciée. François Drugy a été très clair ce matin, le ministre de l'écologie a dit que le système sera désormais déclenché plus rapidement. Romain Hoquet, en gros, ça veut dire qu'on va resserrer la vis.
Oui, exactement, parce que si la circulation différenciée est enclenchée, les véhicules avec une vignette critère 3 seront eux aussi concernés. Ils ne pourront plus rouler, c'est la nouveauté. Dans cette catégorie, on trouve les essences d'avant 2005 et les diesels d'avant 2011. Pas de changement pour les catégories 4 et 5 qui, comme d'habitude, devront aussi rester au garage en cas de pollution. Ces véhicules avec une vignette 3, 4 et 5 représentent à eux seuls plus de la moitié des émissions de dioxyde d'azote à l'intérieur de l'A86, c'est-à-dire le périmètre du dispositif pour Paris. Ce sont donc des critères plus stricts qui seront appliqués, mais qui sont nécessaires pour le ministre de la Transition écologique, François de Rugy.
Cette vague de chaleur est exceptionnelle. Je tiens à dire qu'en 2003, un certain nombre de décès prématurés étaient dus en réalité à la pollution à l'ozone. Et donc, il est tout à fait logique que l'on ait une surveillance extrêmement forte de cette pollution de l'air, comme dans la région Île-de-France.
Alors, le déclenchement de ce dispositif sera aussi plus rapide. Jusqu'à présent, la circulation différenciée était mise en place après d'autres mesures, comme par exemple les limitations de vitesse. Désormais, ce sera automatique après une seule journée au-dessus du seuil d'alerte. Air Paris a prévu de la pollution à l'ozone pour demain, sans dépasser ce seuil d'alerte. Mais ce niveau sera probablement atteint d'ici la fin de la semaine.
Merci Romane. Ok.
Il est 12h40. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Des ripoux dans la police, 5 agents de la BAC mis en examen ces derniers jours, mais Europe 1 vous révèle leur mode opératoire. A tout de suite.
Il est 12h43 sur Europe 1, le journal de la mi-journée avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Il y a quelques jours, Pierre, 5 policiers de la BAC du 18e arrondissement de Paris étaient mis en examen.
Oui, et Pierre de Cossette, ce matin sur Europe 1, vous nous révéliez les dessous de leur pratique.
Oui, des manières mises au jour par l'IGPN avec d'abord, et c'est ce qui a déclenché l'enquête, la dénonciation par un collègue de ces policiers. La scène qu'il raconte se déroule il y a un an. Un équipage de la BAC du 18e contrôle une voiture, y découvre 1 kilo de drogue, mais étrangement, après expertise, c'est de la pâte de date. Les policiers ont-ils échangé les marchandises ? Le suspect, en tout cas, est remis en liberté. Il accuse même l'équipage de lui avoir extorqué plus de 1000 euros. La police des polices va alors se pencher sur ce groupe de la brigade anticriminalité conduit par un policier expérimenté. Présent au commissariat depuis plus de 20 ans, il est surnommé Bilka, Kabyle, en verlan, soupçonné de racketter les dealers du 18e en prélevant sa dîme. L'une de ses formules qu'on lui prête, c'est « on ne travaille pas sans assurance ». Il aurait fait des allers-retours en Algérie pour des l'argent. Les bœufs carottes posent des micros dans les voitures de patrouille. On y parle d'enveloppe d'argent sans doute. On entend aussi un policier confisquer 2 galettes de crack à un trafiquant pour mieux les glisser dans la poche d'un autre homme le lendemain, un homme qui sera condamné à 18 mois de prison. Selon nos informations, ces agissements auraient fait aussi une autre victime, un homme expulsé après une autre procédure bidon. Alors les soupçons sur ces 5 policiers mis en examen ces derniers jours sont variables. En tout cas, ces policiers étaient sans doute convaincus qu'ils ne seraient jamais inquiétés car jamais dénoncés par des trafiquants.
Et tout ça, c'est de la réalité et pas de la fiction. Merci Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Les recherches se poursuivent à Nantes pour tenter de retrouver le jeune homme porté disparu lors de la nuit de la fête de la musique. Steve, 24 ans, participait à une soirée techno sur la pointe de l'île au bord de la Loire. La situation s'était envenimée avec l'intervention des policiers vers 4h30 du matin, des échauffourées et plusieurs participants sont tombés dans le fleuve. On apprend aussi que le disparu ne savait pas nager. L'IGPN a été saisi.
Il est 12h45 sur Europe 1, la suite du journal. Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
Avec un retour remarqué sur la scène internationale, Pierre, le Conseil de l'Europe réintègre la Russie.
Ça veut dire que des députés russes vont concrètement pouvoir resiéger au Conseil de l'Europe. Alors, on rappelle que le Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. Son rôle consiste essentiellement à gérer la Cour européenne des droits de l'homme. 5 ans d'absence, la Russie avait été exclue après l'annexion de la Crimée. Jean-Sébastien Soldaigné, ce retour, évidemment, ne plaît pas à tout le monde.
Non, et en premier lieu aux Ukrainiens, eux aussi membres de cette organisation et qui, avec l'annexion de la Crimée, dénoncent une atteinte à leur souveraineté. Cette assemblée du Conseil de l'Europe, très axée sur les questions des droits de l'homme, était même devenue depuis 5 ans une scène délocalisée du conflit entre Russie et Ukraine. Kiev en avait fait une petite caisse de résonance pour dénoncer l'attitude de Moscou. Du coup, avec cette réintégration, la réaction a été immédiate. L'Ukraine suspend sa participation aux travaux de l'organisation, alors même que les 18 représentants russes ont siégé ce matin. Cette décision, c'est vrai, peut choquer. Exclure ses députés, c'était une sanction pour protester contre cette annexion de la Crimée, mais rien n'a changé. Et le Conseil de l'Europe change désormais d'approche. La France, qui préside le Conseil en ce moment, considère que les tensions géopolitiques se gèrent ailleurs et qu'en réintégrant la Russie, les citoyens russes gardent un accès à la Cour européenne des droits de l'homme comme ultime voie de recours. Le souci, c'est que Moscou applique ses jugements de façon plutôt sélective.
Merci Jean-Sébastien Soldaini.
Un sujet technique maintenant, Pierre, mais c'est important pour les comptes publics et donc pour nous.
Mais oui, c'est la Cour des comptes qui rend son traditionnel rapport annuel sur les perspectives des finances publiques. Les équipes de Didier Migaud jugent préoccupante l'évolution de la dette publique. Le message général au gouvernement étant « c'est mieux, mais il ne faut pas relâcher l'effort ». À la Cour des comptes, pour Europe 1, Olivier Samain.
C'est vrai qu'il y a eu du mieux l'année dernière, pas trop sur le budget de l'État, surtout du côté des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Au global, le déficit de la France s'est réduit de 0,3 points et la dette publique s'est enfin stabilisée. Il n'en sera pas de même cette année, avec les mesures de pouvoir d'achat annoncées par l'exécutif pour répondre à la colère des Gilets jaunes. Le gouvernement a d'ailleurs revu à la hausse ses prévisions de déficit pour 2019. La Cour des comptes pense que ces prévisions revues à la hausse ont des chances de ne pas être dépassées, mais elle envoie un signal d'alerte à plus long terme. D'abord, sur la dette, qui devrait recommencer à croître. Attention, dit la Cour, ce n'est pas parce que les taux d'intérêt restent à des niveaux très bas qu'on peut continuer à s'endetter indéfiniment. Gare à l'effet anesthésiant des taux qui nous font penser que ça ne coûte rien d'emprunter pour faire face à nos dépenses. Le jour où les taux repartiront à la hausse, le piège se refermera. L'autre message de la Cour, c'est le fait que si la France fait des efforts, et c'est bien qu'elle en fasse, ils ne sont pas aussi importants que ceux de nos voisins, Italie mise à part. Du coup, nous continuons à perdre du terrain face aux autres pays de la zone euro.
Olivier Samain à la Cour des comptes à Paris pour Europe 1.
Il est 12h48, Europe 1.
Restez avec nous, une nouvelle pause et dans un instant, Pamela Anderson qui charge Adil Rami et les filles du foot à Clairefontaine. A tout de suite.
Il est 12h50 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et cela faisait plus de 2 ans que l'idylle entre Pamela Anderson et Adil Rami faisait les délices de la presse people, mais c'est fini.
Pamela Anderson l'a annoncé ce matin sur Instagram, un réseau sur lequel elle partage beaucoup de choses, y compris sa vie privée. Après, il faut voir comment les choses sont annoncées, parce que Jean-François Pérez, l'image du footballeur français n'en sortira pas grandi.
Clairement pas. Ce ne sont que quelques lignes, mais elles font très mal, vu la notoriété des deux personnes, et elles auront sans doute des conséquences. « J'ai été dévasté de découvrir qu'il vivait une double vie », écrit Pamela Anderson. « Il a menti à tout le monde, c'est un monstre ». Et plus préoccupant, la star d'Alerte à Malibu d'envoyer le lien d'une association qui lutte contre les violences conjugales, laissant clairement sous-entendre qu'Adil Rami l'a maltraité. Plus loin, elle confie « J'ai des gardes du corps parce qu'il me fait peur ». C'est donc la fin d'une romance glamour de plus de 2 ans qui, vous l'avez dit, a rassemblé les fans des séries télé, des supporters de foot, particulièrement de l'OM où évolue Adil Rami. Pour ses centaines de milliers de followers, comme on dit, le couple étalait sa vie, ses petites histoires. L'actrice assistait fréquemment aux matchs au stade Vélodrome. Elle disait apprécier la vie à Marseille auprès de son champion du monde de compagnon, un homme qu'elle qualifie désormais de narcissique et de sociopathe. Pour Adil Rami, qui a 33 ans, tout frais récipiendaire de la Légion d'honneur, il ne faut pas l'oublier, hein, des mains même du président de la République. Rien ne va plus depuis la victoire en Coupe du Monde l'été dernier. Le défenseur a perdu sa place de titulaire à Marseille après une saison ratée et peut-être même sa place tout court. Sa sortie médiatique sur son burn-out supposé après le Mondial n'a pas fait l'unanimité. Le voilà donc confronté à des problèmes personnels pour le moins gênants pour un homme qui avait récemment prêté son image à une campagne justement contre les violences domestiques. Rami n'a pour l'instant pas réagi.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe.
On revient au terrain cette fois. Et on connaît l'adversaire des Bleus, UES, évidemment. Vendredi, ce sera les États-Unis.
Oui, c'est une affiche de rêve. Évidemment, ça va être compliqué. Simon Rubin, vous êtes à Clairefontaine, où exceptionnellement, elles sont en résidence à cause de la canicule. Comment est-ce qu'elles vivent tout ça en même temps? C'est ce qu'elles attendaient.
Eh oui, les États-Unis, hein, tous les observateurs en parlaient avant même que les équipes ne se qualifient pour les quarts de finale. C'est un choc. C'est une affiche qui serait digne d'ailleurs d'une finale pour les Bleus. Et Philippe Joly, qui est l'un des adjoints de Corinne Diacre, qui était face à la presse ce matin, a reconnu hein, d'ailleurs que cette affiche, ce France-États-Unis, a obnubilé les Bleus depuis des semaines. C'était toujours dans un coin de notre tête, a-t-il dit.
Tout le monde l'attend. C'est le match référence que tout le monde attend depuis le tirage au sort. Sachant que le jour du tirage au sort ou la veille du tirage au sort, on a eu ce changement de programme. Donc le jour du tirage au sort, on a su que potentiellement en quart de finale, on avait les États-Unis. Alors aujourd'hui, je pense qu'inconsciemment, tout le monde avait ça derrière la tête. D'où la pression qu'il y a pu avoir sur le dernier match. Mais je pense que pour les Américaines aussi.
Et Philippe Joly, hein, qui a d'ailleurs expliqué que si les Bleus ont eu du mal contre le Brésil en huitième de finale, c'est peut-être aussi parce qu'elles pensaient un peu trop au quart de finale potentiel contre les États-Unis. Donc on voit bien que c'est vraiment un match qui polarise tout. C'est un peu comme un aimant hein, qui attire les regards, qui attire les questions, qui attise sans doute un peu les doutes. En tout cas, c'est clair, les Bleus avaient coché ce quart de finale de vendredi depuis bien longtemps.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Et puis il y a 10 ans, jour pour jour, décédé le roi de la pop, j'ai nommé Michael Jackson.
Oui, mais vous savez quoi ? Nous, Michael Jackson, on le préfère vivant.
Vous avez bien choisi la chanson.
Oui, c'est Daniel Boudier qui a choisi.
Mais surtout,
Daniel
vous maîtrisez la Corée.
Qui est rédacteur.
Oui, on attend le Moonwalk. On écoutera Billie Jean tout à l'heure.
Je pose un démenti parce que ceux qui nous regardent sur Europe1.fr ont vu que je n'ai pas bougé.
Mais on l'attend
vous,
avec
Anissa,
impatience. On l'attend avec impatience. On écoutera Billie Jean. J'avais le 45 tours, ça ne me rajeunit pas.
Eh bien tiens.
12h55.
Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Et vous restez avec nous sur Europe 1. On va trier aujourd'hui les canettes, les bouteilles en verre, les emballages plastiques avec des acteurs français qui s'y connaissent. On parle consigne. C'est la France qui bouge.
On a chaud, il fait beau sur toute la France. Raphaël Duchemin, on va faire un point hein, sur les journées qui arrivent. Hein.
Oui, et Elena me dit que les températures, c'est comme la petite bête, ça monte.
Oh là là. Effectivement, aujourd'hui, en fait, c'est la deuxième salve de chaleur qui va pousser le mercure jusqu'à 38 degrés à l'ombre cet après-midi à Avignon ou encore à Gap, 37 à Strasbourg, 36 à Lyon, à Auxerre. Je rappelle que nous sommes en juin. Hein. 35 à Charleville-Mézières ou encore à Clermont-Ferrand, 34 à Toulouse et Marseille, 33 à Paris et Tours, 32 à Lille et Angoulême, 31 à Bordeaux et Ajaccio. Alors c'est vrai que c'est plus agréable sur le littoral de la Manche ou celui de l'Atlantique avec par exemple 19, c'est un peu frais à Saint-Brieuc, jusqu'à 26 à Dunkerque ou encore à Dunkerque, encore La Rochelle et Biarritz. Plus frais sur la Bretagne et les bords de Manche à cause des nuages qui circulent et puis encore quelques orages cet après-midi et ce soir surtout du côté de la Bretagne. Ailleurs c'est du ciel bleu. Alors les prochaines 48 heures seront marquées par la troisième envolée des températures sur l'ensemble du pays avec des valeurs comprises pour la plupart entre 33 et 41 degrés. Vendredi, on devrait tutoyer les records au sud, les records de 2003. Et ça se passera surtout dans la vallée du Rhône où on aura 44, 45 degrés.